Bonjour, ici Marc, bienvenue au 51e épisode du bonheurpourtous.info, le podcast où je partage avec vous les meilleures perspectives que je trouve pour reprendre contact avec notre vraie nature, le bonheur. Aujourd'hui, on continue avec la traduction du livre de Larkin Rose, La superstition la plus dangereuse. Identifier l'ennemi. Pour évaluer le concept d'autorité et déterminer sa valeur, nous devons commencer par définir clairement ce qu'il signifie et ce qu'il est. Dès la petite enfance, on nous enseigne à nous soumettre à la volonté de l'autorité, à obéir aux édits de ceux qui, d'une manière ou d'une autre, ont acquis des positions de pouvoir et de contrôle. Dès le départ, la bonté d'un enfant est évaluée, explicitement ou implicitement, d'abord en fonction de la façon dont il obéit à ses parents, ensuite en fonction de la façon dont il obéit à ses professeurs, et ensuite en fonction de la façon dont il obéit aux lois du gouvernement. Que ce soit implicitement ou explicitement, la société est saturée du message selon lequel l'obéissance est une vertu et que les bonnes personnes sont celles qui font ce que l'autorité leur dit de faire. En raison de ce message, les concepts de moralité et d'obéissance sont devenus si confus dans l'esprit de la plupart des gens, que toute attaque contre la notion d'autorité sera ressentie par la plupart d'entre eux comme une attaque contre la moralité elle-même. Toute suggestion selon laquelle le gouvernement est intrinsèquement illégitime ressemblera à une suggestion selon laquelle tout le monde devrait se comporter comme des brutes sans sensibilité ni réflexion, obéissant uniquement à la loi du plus fort. Le problème est que le système de croyance de l'individu moyen repose sur un fatras de concepts et d'hypothèses vagues, souvent contradictoires. Des termes tels que moralité et obéissance, loi et assemblée législative, dirigeants et citoyens sont constamment utilisés par des personnes qui n'ont jamais examiné ces concepts de manière rationnelle. La première étape pour essayer de comprendre la nature de l'autorité ou du gouvernement est de définir le sens de ce mot. Qu'est-ce que cette chose appelée gouvernement? Le gouvernement dit aux gens ce qu'ils doivent faire. Mais cela ne nous donne pas une définition suffisante, car toutes sortes d'individus et d'organisations disent aux autres ce qu'ils doivent faire. Le gouvernement, cependant, ne se contente pas de suggérer ou de demander, il ordonne. Un publicitaire qui dit « Agissez maintenant !» ou un prédicateur qui dit à ses fidèles ce qu'ils doivent faire, peuvent aussi être considérés comme des donneurs d'ordre, mais ils ne sont pas des gouvernements. Contrairement aux ordres des prédicateurs et des publicitaires, les ordres du gouvernement s'appuient sur la menace d'une punition, l'utilisation de la force contre ceux qui ne se conforment pas, ceux qui sont en train d'enfreindre la loi. Mais même cela ne nous donne pas une définition complète, car les voyous et les brutes de la rue font eux aussi suivre leurs ordres par de la violence, mais ils ne sont pas le gouvernement. La caractéristique distinctive de l'autorité est qu'elle est censée avoir le droit de donner et d'appliquer des ordres. Dans le cas du gouvernement, ces ordres sont appelés lois, et désobéir à ces lois est considéré comme un crime. L'autorité peut se résumer au droit de gouverner. Il ne s'agit pas simplement de la capacité à contrôler les autres par la force, ce que presque tout le monde possède dans une certaine mesure. Il s'agit du prétendu droit moral de contrôler les autres par la force. Les intrusions, les vols, les extorsions, les agressions et les meurtres commis par de simples voyous sont perçus par presque tout le monde comme immoraux, injustifiés et criminels. Leurs victimes peuvent se plier à leurs exigences, mais pas par obligation morale d'obéir, simplement par peur. Si les victimes visées par le gang de rue pensaient pouvoir résister sans danger pour elles-mêmes, elles le feraient, sans le moindre sentiment de culpabilité. Elles ne perçoivent pas le voyou comme une sorte de chef légitime qui fait ce qu'il fait de plein droit, elles ne l'imaginent pas comme une autorité. Le bulletin collecté par le voyou n'est pas appelé impôt, et ses menaces ne sont pas appelées loi. Les exigences et les ordres de ceux qui portent l'étiquette de gouvernement, en revanche, sont perçus très différemment par la plupart de ceux à qui ils s'adressent. Le pouvoir et le contrôle que les législateurs du gouvernement exerce sur tous les autres sont considérés comme valables et légitimes, légaux et bons. De même, la plupart de ceux qui se conforment à ces ordres en obéissant à la loi et qui remettent leur argent en payant des impôts ne le font pas seulement par crainte d'être punis s'ils désobéissent, mais aussi par sentiment du devoir d'obéir. Cela est entièrement dû à la façon dont les obéissants perçoivent ceux qui leur donnent des ordres. S'ils sont perçus comme une autorité, un maître légitime, ils sont par définition considérés comme ayant le droit moral de donner de tels ordres, ce qui implique une obligation morale de la part des gens d'obéir à ces ordres. Se qualifier de « contribuable respectueux de la loi », c'est se vanter de son obéissance loyale au gouvernement. Dans le passé, certaines églises ont revendiqué le droit de punir les hérétiques et autres pécheurs, mais dans le monde occidental d'aujourd'hui, le concept d'autorité est presque toujours lié à celui de gouvernement. En fait, les deux termes sont presque synonymes, car à notre époque, l'un implique l'autre. L'autorité est censée découler des lois édictées par le gouvernement, et le gouvernement est l'organisation censée avoir le droit de gouverner, c'est-à-dire l'autorité. Il est essentiel de faire la différence entre un ordre justifié par la situation et un ordre justifié par la personne qui l'a donné. Ce n'est que ce dernier type d'autorité qui est abordé dans ce livre, bien que le terme soit parfois utilisé dans un autre sens qui tend à brouiller cette distinction. Lorsque, par exemple, quelqu'un affirme qu'il avait l'autorité d'arrêter un agresseur pour récupérer le sac à main d'une vieille dame, ou qu'il avait l'autorité de chasser les intrus de sa propriété, il ne prétend pas posséder des droits spéciaux que d'autres ne possèdent pas. Il dit simplement qu'il pense que certaines situations justifient de donner des ordres ou d'utiliser la force. En revanche, le concept de « gouvernement » renvoie au fait que certaines personnes ont un droit spécial de gouverner. Et cette idée, la notion selon laquelle certaines personnes, à la suite d'élections ou d'autres rituels politiques par exemple, ont le droit moral de contrôler les autres, dans des situations où la plupart des gens ne le feraient pas, est le concept dont il est question ici. Seuls les membres d'un gouvernement sont censés avoir le droit de promulguer des lois, d'imposer des impôts, de faire la guerre, de réglementer certaines questions, d'accorder des permis pour diverses activités, etc. Lorsqu'il est question de croyance en l'autorité dans ce livre, c'est à cette signification qu'il est fait référence. L'idée que certaines personnes ont le droit moral de contrôler les autres par la force et que, par conséquent, ces derniers ont l'obligation morale d'obéir. Il convient de souligner que l'autorité est toujours dans l'œil de celui qui regarde. Si la personne contrôlée croit que celui qui la contrôle a le droit de le faire, alors la personne contrôlée voit le contrôleur comme une autorité. Si la personne contrôlée ne perçoit pas le contrôle comme légitime, le contrôleur n'est pas considéré comme une autorité, mais simplement comme une brute ou un voyou. Les tentacules de la croyance en l'autorité s'étendent à tous les aspects de la vie humaine, mais le dénominateur commun est toujours la perception de la légitimité du contrôle exercé sur les autres. Chaque loi et chaque impôt, fédéral, étatique ou local, chaque élection et chaque campagne, chaque licence et chaque permis, chaque débat et mouvement politique, en bref, tout ce qui a trait au gouvernement, d'une banale ordonnance municipale à une guerre mondiale, repose entièrement sur l'idée que certaines personnes ont acquis le droit moral, d'une manière ou d'une autre, à un degré ou à un autre, de régner sur les autres. Il ne s'agit pas ici d'un simple usage abusif de l'autorité ou d'un débat sur le bon gouvernement par rapport au mauvais gouvernement, mais d'un examen du concept fondamental et sous-jacent de l'autorité. Le fait qu'une autorité soit considérée comme absolue ou qu'elle soit soumise à des conditions ou à des limites peut avoir une incidence sur l'ampleur des dommages causés par cette autorité, mais cela n'a aucune incidence sur le caractère rationnel du concept sous-jacent. La Constitution américaine, par exemple, est censée avoir créé une autorité qui, au moins en théorie, avait un droit très limité de gouverner. Néanmoins, elle a cherché à créer une autorité ayant le droit de faire des choses, par exemple taxer et réglementer, que le citoyen moyen n'a pas le droit de faire par lui-même. même si elle prétendait n'accorder le droit de gouverner que sur certaines questions spécifiques, la Constitution prétendait toujours conférer une certaine autorité à une classe dirigeante, et en tant que telle, elle est tout autant la cible de la critique suivante de l'autorité que le serait l'autorité d'un dictateur suprême. Le terme « autorité » est parfois utilisé dans des sens qui n'ont rien à voir avec le sujet de ce livre. De même, certaines relations ressemblent à l'autorité, mais n'impliquent aucun droit de gouverner. La relation employeur-employé est souvent perçue comme s'il y avait un patron et un subalterne. Cependant, aussi dominateur ou autoritaire que puisse être un employeur, sans l'aide de l'État, il ne peut pas engager de force des travailleurs ou les emprisonner pour désobéissance. Le seul pouvoir dont il dispose réellement est celui de mettre fin à l'accord en licenciant l'employé, et l'employé dispose du même pouvoir puisqu'il peut démissionner. Il en va de même pour d'autres relations qui peuvent s'apparenter à une autorité, comme un artisan et son apprenti, un maître d'arts martiaux et son élève, ou un entraîneur et l'athlète qui l'entraîne. Ces scénarios impliquent des arrangements basés sur un accord mutuel et volontaire, dans lequel chaque partie est libre de se retirer de l'arrangement. Une telle relation, dans laquelle une personne permet à une autre de diriger ses actions dans l'espoir qu'il bénéficiera des connaissances ou des compétences de l'autre, n'est pas ce dont je parle, et ce n'est pas le type d'autorité qui constitue la superstition la plus dangereuse. Voilà, c'était l'épisode d'aujourd'hui. Si vous aussi vous voulez que ceux dont on parle ici arrive aux oreilles de plus de monde, parlez-en autour de vous, faites des heureux. Les médias sont de plus en plus censurés, mais laisser un commentaire sur iTunes, par exemple, peut aider les gens à trouver ces informations plus facilement. Sur bonheurpourtous.info, il y a un lien qui vous amène au podcast dans iTunes. À l'épisode prochain, avec la suite de la première partie de « La superstition la plus dangereuse ».